Cendrillon. Il était une fois, dans un royaume entouré de collines et de rivières argentées, une jeune fille nommée Éléonore. Son père était un homme bon, maître d'écurie du duc, et sa mère une femme douce qui savait parler au vent et aux fleurs. Mais lorsque la mère mourut, la maison perdit son éclat. Le père, égaré dans son chagrin, se remaria avec une noble dame, belle mais hautaine, accompagnée de deux filles, Issane et Corène, aussi vaines que cruelles. Éléonore fut reléguée à l'ombre du foyer. On lui confia les corvées, les planchers, la lessive. Ses mains devenirent rudes, ses robes ternes, et les cendres de l'âtre furent souvent sa seule compagnie. C'est pourquoi ses demi-sœurs la surnommèrent Cendrillon, un nom qu'elle croyait humiliant, mais qu'elle porta sans haine, car elle savait que la cendre garde la chaleur du feu disparu. La vie aurait été sombre, et si sa marraine, une femme aux cheveux d'argent et au regard profond, ne lui avait pas souvent rendu visite en secret de façon régulière. On disait qu'elle vivait de l'autre côté du brouillard, là où le monde touche encore la magie. Elle venait à la tombée du soir, quand la maison dormait, et paraissait dans le jardin comme une douce brume autour des rosiers en été et proche de la cheminée en hiver. « Ma chère enfant, comment tiens-tu » demandait-elle, sa voix aussi légère qu'un fil du vent. « Je fais ce que je peux, ma reine. Il y a tant de travail, mais je rêve encore. » « Rêver, c'est garder la porte ouverte au possible, » répondait la fée. « Tant que tu rêves, personne ne peut t'enchaîner. » Elle parlait souvent longtemps, de la beauté cachée dans les choses simples, des oiseaux qui migrent sans se tromper, de la lumière que le cœur peut abriter même dans la nuit. Puis avant de disparaître, la marraine posait sa main sur la joue de sa filleule. « Quand ton heure viendra, souviens-toi, la bonté est la plus ancienne des magies. » Chapitre 2, l'annonce du bal. Un jour, un héros parcourut les routes du royaume. « Le roi invite tous les jeunes à un grand bal en l'honneur du prince Alaric, revenu de ses voyages au lointain pays du Nord. » Les sœurs de Cendrillon s'agitèrent comme deux pies autour d'un trésor. Elles passèrent des semaines à choisir leur tissu, à se quereller pour des rubans, à se regarder dans le miroir. Cendrillon les aidait, silencieuse, cousant leurs robes, tressant leurs cheveux. Mais dans son cœur, un léger regret la pinçait. Non pas de ne pas être belle, mais de ne pas pouvoir voir le monde au-delà des murs de la maison. Le soir du bal, les carrosses partirent dans la nuit. La marâtre jeta un dernier regard méprisant à Cendrillon resté près du feu. Puis le silence retombait dans la maison. Chapitre 3, le don de la marraine. Cendrillon soupira et regarda le jardin sombre. Elle pensa, « Si seulement je pouvais ne serait-ce qu'une fois voir ce que ce monde dont tout le monde me parle. » Et comme appelée par son désir, la brume du soir s'éleva encore une fois autour d'elle. De son sein jaillit la marraine fée, portant dans sa main une baguette brillante comme un croissant de lune. « Tu veux aller au bal, ma chère enfant ? » demanda-t-elle en souriant. « Oui, mais regardez-moi, je ne suis pas faite pour ces merveilles. » « Oh, mais tu l'es plus que toutes les autres. Tu as gardé la lumière du cœur, et c'est la plus rare de toutes les parures. Voyons voir ce que je peux faire que pour tout le monde le voit. » Et d'un geste, la fée transforma une citrouille en carrosse dorée, six souris en chevaux gris, et le vieux chien de la cour en cocher noble et fidèle. Puis elle effleura Cendrillon de sa baguette, et ses haillons se changèrent en une robe d'argent et de rosée, brodée de petites étoiles. Sur ses pieds apparurent deux souliers de verre, transparents comme la clarté de l'aube. « Va, Cendrillon, mais souviens-toi, quand la 12e cloche sonnera, tout cela redeviendra ce qu'il était. »«
Je n'oublierai pas, ma reine. Merci pour tout. » »«
Alors vis ce rêve comme s'il était vrai. C'est ainsi que les rêves changent le monde. »
Tling, tling.
Le palais resplendissait de 1000 chandelles. Lorsque Cendrillon entra, les conversations cessèrent. On eût dit qu'une étoile était descendue marcher parmi les hommes. Le prince Alaric, vêtu d'un menton sombre bordé d'argent, la vit, son regard se fixa sur elle. Il s'approcha, s'inclina profondément et dit « Je ne sais pas d'où vous venez, dame, mais le monde semble plus lumineux depuis que vous êtes entrée. » Elle sourit, un peu troublée. « Peut-être n'est-ce qu'un éclat de verre, monsieur, les apparences sont parfois trompeuses. » Et pourtant, les yeux du cœur voient plus clair que ceux du visage. Ils dansèrent. Leurs pas étaient lents, fluides, presque silencieux. Le prince lui parla doucement de ses voyages, des terres froides du nord, de la nuit sans étoiles. Cendrillon lui raconta à mots couverts la vie simple qu'elle menait, la beauté des choses humbles, la force qu'il faut pour rester doux dans un monde dur. Ils s'écoutaient pendant toute la nuit, comme on écoute un chant oublié. Mais déjà les cloches sonnèrent. Ton, ton, ton. À 11 coups, Cendrillon réalisa, blêmit, et dit « Je dois partir !»
Restez, je veux connaître votre nom, dit le prince. Vous le saurez quand vous saurez regarder dans la cendre et trouver la lumière. Et elle s'enfuit dans la nuit, perdant un soulier sur les marches du grand escalier. Quand Laric le ramassa, le verre luisait d'une clarté douce, comme si une étoile y dormait. Le lendemain, le prince fut programmé dans tout le royaume. « Celle à qui ce soulier appartient sera reconnue comme celle que mon cœur a choisie. » Issan et Coren, comme bien d'autres filles, essayèrent. Bien sûr, elles rirent, elles mentirent, se plaignirent, mais le soulier resta froid à leur contact. Puis Cendrillon s'approcha, humble et calme. « Puis-je essayer, s'il vous plaît ?» Le prince présent, lui-même, la reconnut aussitôt. Quand elle enfila le soulier, celui-ci s'illumina comme un rayon d'aube. Le second apparut aussitôt dans la main du prince, changé de cendre en cristal pur. « C'était donc vous ?» dit le prince émerveillé. « Oui, » répondit-elle doucement. « Mais ce que vous avez vu cette nuit, ce n'était qu'un miracle de magie. C'était ce que je suis quand la peur et la honte se taisent. » Alors il s'inclina profondément. « Et c'est celle-là que j'aime. » Tining, tining. Le soir de leurs noces, dans le jardin illuminé, la marine fée apparut encore une fois. Elle posa sa main sur l'épaule de Cendrillon et dit « Tu n'as pas oublié ce que je t'ai appris. La magie n'est rien d'autre que la bonté donnée au monde. » Cendrillon lui sourit à travers ses larmes. « Vous m'avez appris à croire, ma reine. Non, mon enfant, tu savais déjà. Je n'ai fait que rallumer la flamme. » Puis la fée se dissipa dans la brume, emportée par le vent du soir. Et l'on dit qu'à chaque hiver, quand le feu crépite dans les cheminées du royaume, on entend au loin un petit rire doux et lumineux, semblable à une étoile qui veille. « Tling, tling !»